Philanthropia avec la Fondation Caritas France. Geneviève Delmarmol.
Bonjour à tous, bienvenue dans Philanthropia, l'émission qui vous fait découvrir chaque semaine une action solidaire ou généreuse. Nous allons vous raconter une très belle histoire aujourd'hui, une histoire d'amour avec un grand A. J'ai le plaisir d'accueillir Marianne Sébastien, prix international des droits humains 2018, cantatrice et présidente fondatrice de l'association Voix Libre. Bonjour Marianne.
Bonjour Geneviève.
Voix Libre, une association reconnue 58e meilleure ONG au monde que vous créez en 1993 pour s'attaquer à la plus profonde souffrance humaine. Alors en 20 ans, Voix Libre a déjà aidé plus de 2 millions de personnes en Bolivie, principalement des enfants. Votre pari, Marianne Sébastien, c'est sortir les enfants des mines, des ordures de la rue et pour ce faire, l'amour, une très vaste et puissante action et le chant. Vous êtes cantatrice, vous habitez Genève et un beau jour, vous faites une rencontre dans un concert de musique bolivienne. C'est le début d'une grande aventure, racontez-nous.
Oui, dans ce concert où je n'avais pas prévu d'aller, mais voilà que j'y suis et que mon voisin est un Bolivien qui part en mission et qui m'engage comme consultante pour aller pour une mission sur l'Altiplano de menuiserie, alors qu'il n'y a pas de bois et pas de menuisier. Donc j'y suis allée. Et en fait, la vie m'a emmenée là-bas parce que 5 minutes avant de quitter ce grand voyage, après un mois de travail, j'avais rencontré les enfants des mines. Je n'ai jamais vu des enfants souffrir comme les enfants au fond des mines. Et l'homme que j'ai rencontré là, c'est 5 minutes avant de partir, c'est le Padre Santiago, un père incroyable qui avait scolarisé 50 000 enfants et qui m'a dit « Reste ici, je vais te montrer tout ce que j'ai fait ». Donc avec joie, je suis restée avec lui et ma vie a basculé parce que j'ai envoyé toutes mes économies à cet homme qui a continué des écoles et des projets humanitaires et des entreprises. Et en fait, 6 mois plus tard, cet homme est mort, mais la veille de sa mort, il m'a envoyé un testament. Et ce grand ami est mort juste d'une crise cardiaque après avoir posté tous ces projets que j'ai reçus.
Et vous avez relevé le défi, pris la suite, honoré sa mémoire.
Exactement.
Et son testament, ben voilà, vous l'avez fait vôtre.
À ma manière, d'une nouvelle manière beaucoup plus féminine, je dirais, avec tout de suite du microcrédit sans intérêt.
Alors on va y venir. À ce moment, vous passez un mois sur les ordures. C'est votre première découverte de cette extrême misère.
Oui, j'ai passé un mois dans les ordures parce qu'un enfant qui pleurait la nuit dans la rue m'a dit « Viens voir où j'habite ». Et je l'ai suivi le lendemain et je suis arrivée dans cet espace où il y avait le ciel était rempli de plastique noir et blanc et il y avait 4000 personnes qui mouraient dans ces ordures et qui travaillaient sans se connaître, sans se parler. Puis j'ai commencé avec les enfants, j'ai fait un groupe de títeres, des marionnettes avec eux pour qu'ils racontent leur vie, qu'ils racontent tout ce qu'ils vivent, comme ils mangeaient les ordures, comme ils étaient nés dans les ordures, comme ils mouraient dans les ordures. Le cimetière d'enfants était plus grand que le cimetière des adultes. Et là, on a tout de suite commencé à s'organiser et construire une grande maison.
Alors, vous intervenez en Bolivie dans différents endroits, Marianne Sébastien.
Oui.
Un peu de géographie.
Donc, 4 départements sur les 9. Ça veut dire que la Bolivie est grande 2,6 fois. Comme la France. Ouais. Donc imaginez l'espace énorme. Et en fait, nous, on s'est concentrés comme dans les 4 départements qui sont les plus pauvres, ceux qui sont sur l'altiplano à 4000 mètres d'altitude, où tout est difficile même de respirer.
Mmh. Ok. Alors, votre première campagne, c'est la prévention et l'éradication du travail dans les mines. Alors, on est à Potosi, 4500 mètres d'altitude. Comment ça se passe là-bas? Quelle est la vie de ces gens?
En 3 siècles, il y a eu 8 millions de morts dans ces mines. Ça veut dire qu'on peut dire que c'est le centre du génocide des Indiens, 56 millions de morts. Et quand j'ai vu ces enfants, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, mais je n'avais jamais vu des enfants souffrir ainsi, descendre dans des petites mines juste pour les enfants, dans lesquelles les adultes ne peuvent même pas s'enfiler. Et ces enfants, avec courage, descendent et sont terrorisés. On peut dire qu'ils ont le syndrome de la taupe. C'est des enfants qui ont les yeux qui s'abîment, qui ont des problèmes de peau. J'ai découvert combien les droits humains, la Convention des droits humains de l'enfant ne parle pas de leurs besoins et de leurs droits. Ça veut dire qu'on ne parle pas du droit d'habiter quand on est dans un terrier ainsi. On ne parle même pas du droit de naître quand on naît et qu'on risque de mourir congelé, comme j'ai vu souvent des enfants mourir congelés à 4500 mètres d'altitude. On ne parle pas du droit de mourir. J'ai vu quelqu'un qui était mort l'autre jour et tout le monde était dépité parce qu'on ne savait pas quoi faire avec le mort, parce qu'il fallait le descendre à la morgue et il fallait payer 60 bolivianos et personne ne les avait.
L'absolue misère. Alors, très concrètement, Marianne Sébastien, comment faites-vous pour les en sortir?
Je les aime. Et ils m'aiment.
Mais encore.
C'est-à-dire que la première des choses, c'est cet accueil inconditionnel. Les gens dans les ordures sentent mauvais, les gens se disputent, les gens se battent, 4-5% des enfants sont maltraités. Mais loin de nous de juger tout cela, mais juste de voir comment est-ce qu'on éteint le feu. Comment est-ce qu'on éteint le feu, ça veut dire comment est-ce qu'on s'est organisé. C'est un peu un conte de fées. Au début, c'était 12 enfants. Au début, à vrai dire, c'était dans les mines. Donc 12 enfants des mines qui ont voulu en terminer avec cette misère séculaire.
Et vous étiez là.
Et j'étais là. Et ces 12 enfants, on a donné une bourse d'études à chacun. Ils ont pu commencer à étudier. Ils ont commencé à sauver leur quartier.
Mais il fallait leur faire une école d'abord.
Et ben, ils ont tous été à l'école. Et il y en a qui étaient déjà dans les écoles. Mais pour payer des études, c'est autre chose. Donc les bourses les ont formés à être ingénieurs, architectes, assistantes sociales, médecins ou menuisiers. Donc tous ces jeunes ont commencé à diriger, à faire une espèce de gouvernement d'enfants. Et ils ont pris en main leur quartier.
Mais vous avez dû leur construire des logements.
La première des choses, on a loué une maison. Pour commencer, j'ai habité 4 ans, j'ai habité chez l'habitant. J'habitais chez la première famille où tous les frères et sœurs ont commencé à aider. Et j'habitais chez eux à 4500 mètres d'altitude, dans le froid, le gel, où il n'y avait pas d'eau potable, où l'eau est contaminée par les déchets des mines, l'arsenic, le cyanure, etc.
Et là, vous apportez du microcrédit dont on parlera tout à l'heure, vous faites un dispensaire de campagne de prévention, vous apportez tout ce que la vie demande pour vivre normalement, c'est ça?
Le développement, c'est ça. Le développement, c'est un développement global. Donc, quand vous regardez la personne dans son tout, pour commencer, il s'agit de faire de l'éducation, de la formation aux gens, mais il faut des infrastructures. Donc, on a commencé à construire des maisons. Ensuite, il faut mettre de l'eau potable, il faut de l'autonomie alimentaire. À 4500 mètres, il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse. Donc on a inventé des serres semi-souterraines où tout a commencé à pousser. Et puis tout de suite, cet aspect d'autonomie, où chacun peut devenir autonome grâce à un petit capital qu'il n'a jamais eu de sa vie. Tous les pauvres sont dans les chiffres rouges. Tous les pauvres n'ont pas ni à manger, ni rien.
Et donc ces enfants sortaient petit à petit des mines et pour commencer à étudier, à être en bonne santé. Le cercle vertueux s'amorçait.
Même un des responsables de ce premier groupe, le jour où il a passé sa thèse, il avait sa thèse à 2h de l'après-midi, le matin on était dans la mine pour aller sauver un enfant. Donc c'est cette solidarité impressionnante qui m'a aidé, qui m'a émue. Par exemple, on a commencé à mettre l'eau potable dans le quartier, mais à peine ils avaient lancé le projet, ils disaient « mais si nous on a l'eau potable, comment le village d'à côté, le quartier de Louis-Sioux n'aura pas d'eau potable ?» Donc ils se sont tous mobilisés pour mettre aussi l'eau potable pour les voisins.
Vous avez prononcé le mot, Marianne Sébastien, de gouvernant des enfants, des mines et des bidonvilles. Alors ça, c'est très particulier à Voix Libre. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement des enfants? Un peu en détail.
C'est cette conviction que qui mieux que ces enfants qui ont risqué la mort tous les jours dans les mines, qui mieux qu'eux peuvent trouver les solutions. Quand on met la loupe sur les plus pauvres, alors on arrive à faire un diagnostic précis de tous les problèmes. Mais aussi, les solutions sont là. Quand il n'y a pas de questions sans réponse. Donc c'est ce gouvernement-là, c'est 2 mois par année, les 2 mois de vacances, c'est décembre et janvier, où tout de suite, on a fait des réunions avec tous les enfants, ensuite tous les jeunes, puis toutes les femmes, tous les mamans, tout le monde aujourd'hui, où ils réfléchissent, où ils apprennent à faire des serres, où ils apprennent l'autonomie alimentaire, où ils fabriquent des fours solaires, où ils réfléchissent aux bases de comptabilité pour être aptes à prendre des microcrédits, et où ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent gouverner leur communauté, gouverner leur pays.
Une totale autogestion par les plus fragiles, les plus faibles, oui. Qui ont été aidés, qui ont été aimés.
Oui. Personne ne peut mieux les sortir d'affaires que eux-mêmes qui ont vécu cette horreur. Ils connaissent tous les détails. Qui mieux qu'eux peut faire le diagnostic dans les mines? Je n'ai pas vu d'autres ONG faire des diagnostics dans les mines. Parce que simplement, on n'a pas le courage de descendre 1 kilomètre sous terre, au péril de sa vie. Alors que eux, c'est leur destin depuis 3 siècles. Vous comprenez que tous les gens que vous voyez dans ces mines ont leur père qui est mort à 33 ans en moyenne, leur grand-père, leur bisabuelos, enfin, toutes leurs lignées sont mortes là, 8 millions de morts. Donc ils sont en même temps dans un fatalisme, ils sont sur la pente savonneuse du fatalisme, mais en même temps, il fallait que ça soit des jeunes, des enfants, pour réagir. Les adultes, ils savent qu'ils vont mourir, ils savent que tout le monde meurt, et vous ne pouvez pas les secouer, c'est très difficile.
Ce que vous avez mis en place dans les mines, vous l'avez fait aussi donc, dans les enfants des rues, pour les enfants des rues, et il y a ce fameux tunnel à La Paz, assez connu, vous y avez passé du temps, et vous avez fait chanter, danser les enfants.
Ben, ça veut dire que c'est un enfant qui, à minuit, m'a emmené dans ce tunnel. Je ne pouvais pas dormir, il faisait si froid. Et en fait, j'ai vu un enfant sur les enfants des rues qui étaient sur les arbres pour se protéger de la police qui les enfume ou les bat. Et en fait, un enfant m'a amené à Los Niños del Tunnel. Tout le monde en parlait, ces enfants du tunnel à La Paz. Ils vivaient là depuis plus de 3 ans. C'était un capharnaüm total. Je suis entrée là au milieu de la nuit et j'étais bouleversée parce que ces enfants se droguaient, fumaient, étaient dans un état assez catastrophique de santé. Il y en a même qui avaient des blessures avec des asticots à l'intérieur. Et imaginez que la première phrase que ces enfants m'ont dit, c'est « Chante-nous quelque chose ». J'étais bouleversée parce que le chant fait partie de ma vie. Et aussi de la leur. Et en fait, je leur ai chanté des choses. Et puis après, eux m'ont chanté « Gracias a la vida ». Merci à la vie qui m'a tout donné. Donc, on est devenus amis instantanément. On a été manger un sandwich ensuite. Et on a fait un comité tout de suite. On a fait un règlement intérieur. Et un mois plus tard, ces enfants sortaient. Et on avait une nouvelle maison pour les abriter. Ceux qui ont voulu sortir. Donc, on va parler de tous les succès qu'on a eus ou toutes les réussites de toute cette population. Mais bien sûr, vous le savez, quand on travaille avec les enfants des rues, si on a 30 qui viennent dans une maison, c'est qu'il y en a 150 qui sont restés dans la rue. D'autres qui vont mourir de la drogue et d'autres choses. Ou devenir
fous. Bien sûr. Et de ce tunnel sont sortis des avocats, des psychologues.
Oui, surtout. Par exemple, Carlos, qui aujourd'hui est constructeur des cités de la bonté. Et Carlos, c'est comme mon fils, la plupart, c'est comme mes enfants, puisque j'ai vécu tellement avec eux. Mais Carlos, c'est lui qui construit la cité de la bonté à Cochabamba.
Philanthropia, Geneviève Desmarmolles.
Nous parlons de l'association Voix Libre aujourd'hui avec sa fondatrice et présidente Marianne Sébastien. Marianne Sébastien, vous utilisez le chant comme premier outil thérapeutique. Vous avez été amenée à travailler sur le son et la voix pour aider votre propre fils qui est sourd. Et vous dites que ça a été votre grande épreuve de grâce. Parlez-nous de chant, Marianne Sébastien.
Je peux vous parler du chant profond, du chant véritable, du chant qui construit, du chant qui protège. C'est cette vibration énorme qui nous traverse. Et j'ai chanté comme j'ai chanté en concert, j'ai chanté beaucoup d'œuvres sacrées, la Passion selon saint Matthieu, Requiem de Mozart, toutes ces choses. Mais surtout, j'ai mon fils qui est un de mes enfants qui est né sourd. Et ça veut dire que j'étais plongée dans le silence. Donc au fond, la vie m'a nommée spécialiste des sans-voix, je dirais. Et c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé, ni vous, je pense, que la voix peut œuvrer dans le monde, que la voix peut transformer une prison, que la voix peut transformer des groupes entiers et des communautés. Parce que simplement, que feriez-vous, que faites-vous avec les STF en France? Que faites-vous avec un groupe d'alcoolisés en Bolivie qui sont dans des villages et qui décident tout et qui lynchent les femmes et les enfants, où il y a 75% des femmes maltraitées et 85% des enfants maltraités? Ben, je ne savais pas que faire comme vous. Et simplement, un jour, je me suis décidée à les faire chanter, ces femmes qui pleuraient tout le temps. Et elles ont commencé à pleurer, elles ont commencé à rire, elles ont commencé à s'animer. Et puis, avec elle, j'ai découvert cette puissance de la voix, de ce verbe divin qui nous traverse, de ce souffle qu'on reçoit 20 000 fois par jour, qui peut réanimer les âmes et qui peut réveiller les morts.
Je vous entends dire encore, à propos de votre fils, j'arrête ma carrière pour réveiller ce verbe divin qui sommeille en lui.
Ben, tous les médecins, si vous voulez, je peux vous dire qu'en fait, ou dire à nos auditeurs, on a tout le temps des doutes et on se dit non, c'est pas possible. Eh bien, je pense que ce qui m'a été donné, c'est de me dire oui, mon fils parlera. Alors que tous les médecins m'ont dit qu'il ne parlerait jamais, c'était le plus sourd de la République. Eh bien oui, il parle aujourd'hui, il est architecte, et il est dessinateur-architecte, et il parle français et anglais comme vous et moi, avec une belle voix. Donc, heureusement que je n'ai pas cru ça. On m'a dit les femmes meurent à 44 ans dans les mines. Je ne l'ai pas cru. Aujourd'hui, elles vivent encore à 70 ans. On m'a dit les enfants sont destinés à être maltraités et ne se défendront jamais. Aujourd'hui, ils se défendent. Ils ont fait un gouvernement de jeunes. Tous nos groupes d'avocats, qui étaient les anciens gamins du début, tous ces avocats ont fait des nouvelles lois contre la violence, avec le droit de dénoncer enfin.
Vous avez fait bouger 5% du pays. Alors, la population du pays.
L'année passée, on a aidé 236 000 personnes. Mmh. Mais c'est des bénéficiaires directs. Ça veut dire que, comme je vous vois, c'est une personne qu'on va découvrir, qu'on va aimer, avec qui on va se confronter, avec qui on va déclencher un nouveau métier. Mais 236 000 personnes à qui on a fait de l'information sur les nouvelles lois contre la violence, à qui on a fait un travail contre l'alcoolisme, à qui on a formé comme étudiants à l'école, ouais, etc. On a envoyé 30 000 enfants à l'école en un an, avec toutes les mamans qui fabriquent les sacs à dos et le matériel scolaire à l'intérieur. Donc c'est vraiment c'est la preuve que chacun peut être autonome, que chacun, même au fond de la casserole, peut trouver une nouvelle autonomie quand il est dans un terreau social aimant,
bienveillant. Bienveillant. Vous insistez beaucoup sur le travail intérieur, Marianne Sébastien. D'ailleurs, vous allez nous expliquer les différentes techniques que vous appliquez en Bolivie. Le chant n'est vraiment qu'une des techniques. Comment répare-t-on des vies aussi blessées ?
Avec beaucoup d'outils. On a un livre avec les 100 thérapies. On écrit un livre on a mis, dans lequel il y a des bases de kinésiologie, il y a des bases de yoga, il y a des bases d'indicateurs positifs, il y a des bases de chant, il y a les exercices pour libérer l'intérieur, il y a des exercices de travail avec les yeux. Enfin, on a tout. On a ponctué avec des techniques comportementales extrêmement rapidement utilisables. Mais c'est vrai que mon expérience fait que le chant, c'est pas chanter pour chanter, c'est vraiment libérer ce qu'on a au fond, tous ces stress, tous ces blocages, tous ces nœuds qui ne partiront jamais en parlant. Parce que vous savez, on peut parler des années, mais on répète souvent les mêmes choses. Alors que quand on chante et qu'on débloque tous ces diaphragmes intérieurs pour qu'ils soient souples, pour retrouver une cohérence intérieure, alors on arrive ensuite à être libre pour ne plus être encombré par cette souffrance qui se répète.
Pas de développement social sans développement intérieur, c'est ce qu'on pourrait dire.
Voilà.
C'est votre conviction.
Pas de développement social et économique sans ce développement intérieur. Je pense que c'est ça qui fait quelque chose de particulier à Voix Libre. C'est que justement, pour que nos voix soient libres, il faut entrer dans une liberté et dans une vraie liberté de laquelle découlent tous les dons. Parce que si on n'est pas libre, on ne va jamais pouvoir être créatif. Il ne faut pas oublier que la voix, c'est la gorge et c'est le centre de la créativité.
Marianne Sébastien, toute cette population avec laquelle vous travaillez sans relâche n'a pas de papier. Comment faites-vous ? Ces gens n'existent pour personne, ils n'ont droit à rien. Quelles sont vos relations avec les gouvernements, avec les institutions, avec l'administration ? C'est aussi un énorme chantier pour vous.
Oui, mais ça veut dire qu'ils existent. Il suffit d'exister parfois pour une personne pour que ça change notre vie. Pensez à vos vies. Qui nous a dit une parole ? Qui nous a donné un vrai papier d'identité, un gage vraiment de vie ? Et tous ces gens ensuite arrivent à prendre la parole ensemble. Donc on a fait des campagnes énormes pour qu'ils aient un papier d'identité. Ensuite, on a collaboré avec 230 institutions seulement l'année passée. Ça veut dire les services de protection de la jeunesse, les services de police. On a eu 8 prix, mon dernier voyage, du ministre de la Justice, du défenseur du peuple, le président, le directeur de la police, qui était celui qui m'aidait d'ailleurs dans le tunnel à trouver une maison et à sortir ses gamins, le directeur des narcotraficos, des trafics de drogue, parce que simplement nos nouvelles techniques, notre nouvelle campagne pour les bons traitements, ça veut dire les résultats de notre lutte contre la violence, ont fait que l'Assemblée législative a adopté 20 pages de loi pour que... Donc on est en contact très étroit avec tout le gouvernement.
Un grand principe à Voix Libre, c'est le principe de multiplication. Alors donnez-nous quelques exemples. Eh bien, au début... Je vais vous paraphraser. Oui. Ce qui les a sauvés, c'est sauver les autres.
Oui. Et ça, c'est cette phrase, je l'avais dite quand j'étais dans les prisons. Parce que vous pouvez... Comment vous sauvez un assassin ? C'est en lui donnant un rôle. Et le rôle le plus... Je pense que le besoin le plus grand de l'être, c'est celui d'aider les autres. C'est celui de penser aux autres, c'est celui de partager. Et quand on regarde dans toute la pédagogie actuelle, on parle de tous les besoins de l'enfant, et il a besoin de tout, et il devient un roi gâté. Mais en fait, on oublie souvent ce besoin de penser à l'autre, de regarder l'autre dans les yeux, de lui dire son nom, et d'accomplir des gestes de compassion à son égard.
À chacun doit transmettre tout ce qu'il sait et se sentir gardien de sa communauté. C'est une des règles de Voix Libre.
Oui, j'ai commencé avec des bourses d'études, parce que la première chose, quand les gens sont dans la misère, pour que les enfants étudient et puissent prendre en main la fondation, avoir une responsabilité. Mais simplement, la règle, c'était... On te sort des mines, mais tu fais le diagnostic et tu nous dis où il y a 3 enfants qui sont en pire situation que toi ou comme toi. Et les enfants, ils étaient très contents d'expliquer où aller, dans quel trou de mine. Est-ce que c'est la mine, le grito de la piedra, le cri de la pierre. Il y a une mine qui s'appelle le cri de la pierre, imaginez. Mmh. Et là, le nombre d'enfants qu'on a trouvés dans cette mine, grâce aux enfants qui identifiaient eux-mêmes les endroits où il fallait aller.
400 employés aujourd'hui dans l'association Voix Libre qui sont en majorité des ex-bénéficiaires, et c'est bien l'illustration de ce principe de multiplication, Marianne Sébastien.
Oui.
Ces gens ont été formés.
Mais ça veut dire que c'est leur nature. Moi, je suis convaincue que notre nature est de multiplier. Quand on est femme, on le sait, on peut faire plein d'enfants. Mais c'est vraiment une caractéristique féminine, je dirais, de multiplier tout ce qu'on a. Quand on a à manger pour 5, alors on aura pour 10. Quand on a une qualité, on n'a qu'une envie, c'est de la clamer sur les toits. Quand on sait faire une activité créatrice, on a envie de la partager. Les enfants le savent mieux que personne. Donc les boursiers, ils n'arrêtaient pas d'amener des nouvelles personnes. Quand on donne du microcrédit, tu reçois un microcrédit, un petit capital, mais tu dois former 3 apprentis.
Alors justement, ce microcrédit, venons-y, comment ça fonctionne?
C'est très simple. Ces gens n'ont jamais eu d'argent. Ils sont dans les chiffres rouges. Donc le premier microcrédit que j'ai donné, c'est dans Libidonville à Oruro, en fait, où on avait de l'eau jusqu'aux genoux parce que le fleuve avait débordé. On avait des ordures partout, ça puait, c'était horrible. Et là, il y en a un qui a dit, moi je vais m'en sortir. Il était d'accord de prendre un microcrédit. Il voulait 30 bolivianos, ça veut dire 3 euros pour acheter des citrons. Et c'était mon premier microcrédit. Et cet homme, une année plus tard, je l'ai revu, il gagnait sa vie, il avait fait une petite épicerie dans le quartier et il pouvait faire soigner ses enfants chez le médecin. Mais après, quand il a remboursé ses 30 bolivianos, on lui a donné le double, et puis le double et le double. Donc il a eu 5 ou 6 microcrédits pendant l'année.
C'est vraiment l'autonomie que vous cherchez à donner aux gens?
Mais oui, parce que sinon c'est de l'assistentialisme, et c'est pas parce que c'est les derniers et c'est les plus pauvres que j'ai connus dans le monde qu'on va leur donner. Donc on fait de l'échange. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné dans les prisons? Ils voulaient de l'argent, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous m'avez donné? Rien. Donc je vais vous donner du microcrédit et tu donnes au suivant, tu rembourses. Donc c'est cette idée de faire une chaîne et de ne plus être seul. Parce qu'on dit, il faut toujours donner du... Il faut pas donner du poisson, il faut donner une canne à pêche, il faut apprendre à pêcher. Oui, c'est un peu juste et ça suffit pas. Parce que le troisième élément, il faut replonger tous ces gens, tous ces pêcheurs, dans une communauté, dans leur terreau natif, duquel va naître quelque chose de beaucoup plus grand, parce qu'ils sont ensemble. Le fléau principal, c'est quoi? C'est la solitude.
La solitude. Vous venez de parler de prison, vous accordez des microcrédits dans les prisons, Marianne Sébastien.
Oui, on en a donné.
Ça, c'est la confiance quand même.
Des dizaines de milliers à des assassins, des violeurs. Si vous voulez lutter contre la violence, alors luttons contre le fléau de la violence et contre l'assassinat et contre la drogue. Et c'est ce qu'on a fait dans les prisons, avec beaucoup de bienveillance. Et on a fait, les prisons se sont transformées en entreprises. Ça veut dire qu'on a créé des entreprises de chaussures, des entreprises de bijoux, des entreprises d'artisanat, de meubles. Et devant les prisons, on vend des kyrielles de meubles d'objets que vendent les femmes des prisonniers. Donc ils ont découvert leur autonomie et les gens viennent acheter parce que c'est un marché qui est meilleur marché que le marché local.
Alors un peu technique sur le microcrédit, très court terme, 2 à 8 mois, c'est ça?
Oui.
Et un fonds rotatif qui tourne 4 fois par an?
Ça dépend, quand c'est dans la nature et qu'il faut attendre que ça pousse. Par exemple, tous les microcrédits qu'on a donnés pour la quinoa, puisqu'on importe de la quinoa, qu'on travaille beaucoup avec des paysans aussi, ben il faut 9 mois le temps que ça pousse, qu'ils récoltent et qu'ils puissent rembourser. Mais sinon, c'est vrai que c'est très court parce que c'est des activités de nourriture, des activités très simples. Et ils ont déjà récupéré de l'argent 3 mois plus tard.
Et ces femmes qui gardent les mines dont on parlait au début de l'émission, oui, elles aussi ont eu droit à un peu d'argent pour leur permettre de démarrer des petits artisanats.
Alors, dans les mines, c'est l'endroit où c'était le plus difficile et où c'est le plus difficile parce que c'est vraiment une misère noire. C'est les paysans, en fait, qui meurent de faim dans leur campagne, où ils n'ont aucun appui, aucun subside, et ils viennent mourir dans les mines, alors qu'ils pensaient y trouver l'Eldorado et gagner
bien
de
sûr
l'or et de l'argent.
Bien sûr.
Donc ces femmes se retrouvent souvent seules parce que les maris meurent, ou souvent ils partent à l'étranger avec une autre femme. Elles se retrouvent dans les mines, à garder les mines. Et puis là, un microcrédit, ben, elles vont faire une petite échoppe où elles vont vendre du pain, elles vont vendre des sandwichs, elles vont vendre des choses comme ça, au-dessus du précipice, et c'est pas simple.
Voilà, mais voilà pour notre première émission sur Voix Libre, parce que je réserve à nos auditeurs la surprise de vous retrouver la semaine prochaine, oui.
Simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a beaucoup d'enfants en liste d'attente. Et que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu faire toute une chaîne de parrainage, mais pas des parrainages justement assistentialistes. C'est que parrainer un enfant à Voix Libre, c'est le rendre leader. C'est lui qui va prendre en main une fois qu'il est formé, qu'il a fini ses études. Et ça, je vous le dis quand même, c'est qu'un parrainage pour avec 30 euros par mois, un enfant et toute sa famille sort de la misère, et en nous donnant des chances de créer de nouveaux leaders qui vont transformer leur communauté et lutter eux-mêmes contre la misère.
Voilà, notre émission arrive déjà à son terme. Donc, je vous disais il y a un instant, nous vous retrouvons la semaine prochaine, car je voudrais faire découvrir à nos auditeurs d'autres programmes inspirants et porteur de paix imaginé par Voix Libre. Ces bonnes pratiques essaiment de plus en plus dans le monde entier, on en parlera la semaine prochaine. Vous pouvez déjà aller sur le site voixlibre.org. Vous pouvez ainsi écouter ou réécouter cette émission en podcast sur la page Philanthropia de Radio Notre-Dame. Merci à vous, Marianne Sébastien, pour
merci
ce magnifique
vous,
premier témoignage. On aura la suite la semaine prochaine.
Olivier.
Merci aussi à Cédric Cobat, la technique aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine en compagnie de Marianne Sébastien.
Merci.